est midi et demi. Le journal de la mi-journée sur Europe 1, c'est avec vous Fabienne Lemoelle. Bonjour Fabienne.
Bonjour Marlène, bonjour à tous. Ravi de vous accueillir dans ce journal de la mi-journée. Opération escargot et barrage filtrant des routiers depuis ce matin pour dénoncer la hausse de la taxe sur le gazoil. Un nouveau dossier pour le gouvernement, toujours confronté à la paralysie dans les transports. L'intersyndicale des cheminots était réunie au siège de la CGT ce matin pour décider de reconduire la grève jusqu'à mardi. Côté trafic, c'est toujours le même scénario ce week-end à la SNCF et la RATP. Un TGV sur 6 ce matin, 15% des trains de banlieue qui roulent et 9 lignes de métro fermées et des syndicats comme Sudrail bien décidés à maintenir la pression.
Nous, ce qu'on souhaite dire aux usagers, c'est quelques jours de galère pour des années de retraite. Mesurez bien ça.
Éric Meyer, délégué Sudrail, qui était l'invité de Bernard Poiret ce matin sur Europe 1. À 12h45, notez que je reçois l'historien Michel Pigenet, spécialiste des mouvements sociaux. Toujours dans le journal de la mi-journée, le coup de théâtre aux assises de la Somme avec Willy Bardon, condamné hier soir à 30 ans de prison dans l'affaire Élodie Cully qui a tenté de se suicider. Le Téléthon avec le 36-37 qui a besoin de vous. La recherche a besoin de lancer de nouveaux projets.
Ce que je vois, ce sont des vraies lumières. Le reflet des lampadaires sur le pelage de mon chien guide, ça marche. C'est extrêmement prometteur.
La météo, journée calme, nous dira Valérie Darmon, avant un coup de vent sur la Manche demain soir. Et puis vous le savez, à 13h, on prolonge cette tranche d'information avec Tout Terrain, l'émission des reporters d'Europe 1, émission exceptionnelle qui va vous emmener découvrir les lieux emblématiques du réchauffement climatique sur les 5 continents en pleine COP25.
Europe 1, écoutez le monde changer.
Alors qu'une partie de la France est toujours à l'arrêt avec la grève des cheminots, c'est au tour des routiers de se manifester, mais rien à voir cette fois avec la réforme des retraites. S'ils bloquent depuis ce matin plusieurs axes autoroutiers avec des barrages filtrants ou des opérations escargots, c'est pour empêcher les camions étrangers de circuler et c'est surtout à cause d'une taxe sur leur carburant professionnel. Yasmine Akatou.
Effectivement, et sur le terrain, cette mobilisation a entraîné quelques ralentissements. Difficile de circuler sur certains axes. En Ile-de-France, une dizaine de camions bloquent trois voies au croisement de l'A4 et de la A104 en Seine-et-Marne. Au niveau d'Aix-en-Provence, sur l'autoroute A8 en direction de Lyon, quatre entrées sont inaccessibles. Quelques bouchons également au péage de Toulouse-Nord. Les transporteurs routiers dénoncent un projet de hausse de 2 centimes de la taxe sur le gasoil des professionnels. Les transporteurs étrangers, eux, ne sont pas concernés. L'organisation des transporteurs routiers européen est à l'origine de ces blocages. Alexis Giberg, président de l'OTRE Île-de-France, dénonce un trop gros manque à gagner.
Concrètement, ça représente 800 euros environ par camion et par an. Ça crée une distorsion de concurrence grave pour nos entreprises qui ne peuvent pas être à armes égales avec des entreprises européennes concurrentes qui n'ont pas ces charges.
Et les différents barrages filtrants seront levés au fil de l'après-midi sur toute la France. Renseignez-vous si vous souhaitez prendre la route.
Yasmina Katou, par ailleurs, sur le front de la réforme des retraites. C'est donc mercredi qu'Édouard Philippe dévoilera l'intégralité de son projet de réforme. Annonce surprise hier du Premier ministre depuis le perron de Matignon. Il a même parlé d'adaptation progressive pour les régimes spéciaux. Ce sont justement les salariés de ces régimes qui sont en première ligne à la RATP et la SNCF avec encore, et on va le voir dans un instant, un trafic très réduit aujourd'hui. Une stratégie totalement assumée par Éric Meyer, le secrétaire fédéral du syndicat Sudrail.
Nous, ce qu'on souhaite dire aux usagers, c'est quelques jours de galère pour des années de retraite en moins ou des centaines d'euros de pension en plus. Mesurez bien ça. Mesurez bien les quelques jours de galère que vous allez avoir si au bout de votre carrière, vous devez travailler 3 ans de plus pour avoir 100, 200 ou 300 euros de pension de moins. Est-ce que vous... Voilà, faites votre choix.
Éric Meyer, qui était l'invité de Bernard Poiret ce matin sur Europe 1. Et ce matin, justement, l'intersyndicat des cheminots était réuni au siège de la CGT à Montreuil pour décider de la reconduction du mouvement. Et à l'instant, l'intersyndicale qui vient de s'achever dit clairement que le mouvement durera tant que la réforme des retraites sera sur la table. En tout cas, pour ce week-end, à la RATP et à la SNCF, les syndicats maintiennent la pression. Du coup, Caroline Baudry, ça se traduit encore par de nombreuses perturbations pour ceux qui veulent prendre le train ou le métro aujourd'hui.
Le week-end s'annonce compliqué, les perturbations restent quasiment les mêmes que jeudi et vendredi. 85% des conducteurs sont grévistes, alors la SNCF annonce un service très limité. Un TGV sur 6 en moyenne et toujours très peu de trains intercités. Les lignes TER presque à l'arrêt puisque seul un ou deux trajets sur 10 aura lieu. Des dessertes seront assurées par des bus, notamment dans la région Grand Est. En Ile-de-France, seulement 15% du trafic est maintenu sur le réseau transilien. Côté RATP, 9 lignes de métro resteront fermées. Les lignes automatiques 1 et 14 fonctionneront normalement. Quelques RER A et B circuleront uniquement entre 13h et 18h. C'est mieux pour les bus. Environ 40% sont maintenus et un tramway sur deux environ. Lundi, visiblement, il faut s'attendre à un trafic similaire puisque cheminots et agents de la RATP seront toujours en grève.
Caroline Baudry, à 12h45, nous reviendrons sur la mobilisation contre le projet de réforme des retraites avec mon invité, l'historien Michel Pigenet, spécialiste des mouvements sociaux.
Europe 1, midi 36, Fabienne Lemoyle.
Il sera resté près de 10 heures dans le bureau des juges d'instruction. Voilà le président du Modem, François Bayrou, mis en examen pour complicité de détournement de fonds publics, mis en examen dans l'affaire des assistants des eurodéputés de son parti. Une mise en examen qui intervient après celle de Marielle de Sarnez et de Sylvie Goulard. De quoi fragiliser l'un des principaux alliés du gouvernement, Jean-Rémy Baudeau?
Eh bien Fabienne, c'est évidemment le risque pour François Bayrou et ses proches, un risque qui se situe à plusieurs niveaux. Pour la majorité d'abord, certains à La République En Marche commencent à trouver le Modem un peu encombrant, notamment en ces périodes de négociations pour les municipales. Un cadre à l'REM me confiait qu'il imaginait à terme une dissolution du Modem dans son mouvement. Certains en coulisses y travaillent donc. Il y a aussi un risque pour la position de Bayrou à la tête du Modem. Pour l'heure, personne ne se positionne officiellement, mais le maire de Pau pourrait se voir contraint de quitter son poste s'il était fragilisé. Enfin, il y a le rôle de Bayrou dans le dispositif Élysée. Bayrou, qui avait soutenu le candidat En Marche, est devenu un conseiller indispensable du chef de l'État. Ça ne peut pas altérer la relation entre Emmanuel Macron et François Bayrou, m'assurait une ministre cette semaine. C'est une relation filiale, paternelle, affirme l'entourage de Bayrou. Une relation étroite, forte et solide, renchérit un proche du président. À l'Élysée, on rappelle que le patron du Modem est présumé innocent. Et faut-il y voir un signe que rien ne pourrait modifier la confiance entre les deux hommes? Emmanuel Macron se rendra à Pau dans une dizaine de jours. Un signe de soutien du président.
Jean-Rémy Baudeau du service politique d'Europe 1. Coup de théâtre hier aux Assises de la Somme, alors que le verdict venait de tomber dans le procès de la mort d'Élodie Kulik. Cette jeune banquière de 24 ans, dont le corps avait été retrouvé en 2002 dans un champ, l'accusé condamnait à 30 ans de prison, a tenté de mettre fin à ses jours. On y revient dans un instant.
Il est midi 39, la suite du journal sur Europe 1, Fabienne Lemoyle.
Et on peut parler d'un véritable coup de théâtre hier devant les Assises de la Somme à Amiens, alors que Willy Bardon venait d'être condamné à 30 ans de prison pour le viol, l'enlèvement et la séquestration d'Élodie Kulik. Il a tenté de se suicider en avalant un produit et ce matin, il est toujours hospitalisé, Maximilien Carlier.
Oui, et son état se stabilise d'après le procureur, mais il est toujours en réanimation, sous surveillance policière. Alors hier, stupeur, en pleine cour d'assises, quelques minutes après le verdict, cet ancien patron de bar tente de se suicider. Willy Bardon sort de sa poche un produit pesticide. Il l'avale, puis boit de l'eau. Des policiers l'ont vu, se jettent sur lui, trop tard. Il est pris en charge par les pompiers. Ses avocats juste devant lui n'en reviennent pas. La question qui se pose maintenant, c'est... comment Willy Bardon a-t-il pu entrer au tribunal avec cette substance? L'accusé comparaissait libre, certes, mais il a été fouillé dès son arrivée. Une enquête a été ouverte par le parquet d'Amiens. D'après son entourage, il voulait en finir en cas de condamnation. Tout au long du procès, Willy Bardon n'a cessé de clamer son innocence. Et quelques heures avant son geste, il avait lancé, désespéré, ces quelques mots au père d'Élodie Kulik. « Je n'y étais pas, monsieur, je vous jure ».
Maximilien Carlier devant les Assises de la Somme à Amiens.
Midi 40, vous écoutez le journal de la mi-journée sur Europe 1, Fabienne Lemoyle.
S'il y a un numéro que vous devez retenir ce week-end et surtout composer, c'est bien le 36-37, celui du Téléthon. Pour l'instant, le compteur affiche plus de 12 millions. L'an dernier, au final, la FM avait collecté 84 millions. L'association espère faire mieux cette année pour financer des programmes de recherche, comme par exemple ce premier essai de thérapie cellulaire pour traiter la dégénérescence de la rétine. Jean-Gabriel Bourgeois.
Ce que je vois, ce sont des vraies lumières, le reflet des lampadaires sur le pelage de mon chien guide.
À 55 ans, Wisa n'aurait jamais pensé retrouver un peu de sa vision. Touchée par une maladie orpheline de la rétine, elle est quasiment aveugle depuis l'enfance. Alors quand elle est sélectionnée pour ce premier essai clinique, Wisa est pleine d'espoir. Un patch de cellules souches de 3 mm sur 5 est greffé dans son œil en septembre.
C'est l'événement d'une vie. À la consultation du deuxième mois, le docteur regarde mon œil. Je lui dis, je vois votre lumière. Là, il y a quelque chose de tout ça qui fonctionne, quoi. Ça marche. C'est extrêmement prometteur.
Et c'est aussi une avancée médicale encourageante pour d'autres maladies moins rares. Christelle Monville est chercheuse au laboratoire ISTEM qui a développé cette thérapie.
On espère voir ce patch transformé en un véritable traitement pour ces maladies génétiques, mais aussi peut-être pour des maladies beaucoup plus fréquentes, comme la dégénérescence maculaire liée à l'âge, puisque ce sont les mêmes cellules qui fonctionnent mal ou qui sont perdues.
Une thérapie génique porteuse d'espoir pour plus d'1,5 million de personnes concernées par la dégénérescence maculaire liée à l'âge en France.
Jean-Gabriel Bourgeois, et on vous le martèlera tout le week-end, le 36-37. Dans un instant, le journal des sports et Paris qui se déplace à Montpellier.
Europe 1. Le journal des sports.
Avec Christophe Lamarre. Bonjour Christophe.
Bonjour Fabienne.
On commence avec du football. 10e journée de Ligue 1. Paris se déplace à Montpellier et ce n'est pas forcément joué d'avance.
Le PSG ne réussit jamais très bien à Montpellier. Pas la moindre victoire depuis 4 ans. Une anomalie. Mais s'il y a la statistique, il y a aussi le jeu proposé par le champion de France. Peu convaincant depuis le début de la saison. L'entraîneur parisien Thomas Tuchel le reconnaît d'ailleurs bien volontiers.
On doit admettre que c'est une phase maintenant où des choses ne sont pas trop faciles. Je dis honnêtement que nous ne sommes pas satisfaits avec les manières, mais c'est aussi nécessaire qu'on regarde les choses positives et pas seulement négatives. Je reste totalement positif et c'est bien qu'on joue demain encore.
Thomas Tuchel avec Julien Froment, Montpellier PSG cet après-midi, coup d'envoi à 17h30.
Et puis au programme, 4 autres matchs également ce soir.
Ils débuteront tous à 20h et vous pourrez les suivre dans le multiplex d'Europe 1, Monaco-Amiens, Nice-Metz, Rennes-Angers et Strasbourg-Toulouse. On rappelle qu'hier soir, Lille a battu Brest 1-0 et monte sur le podium. Lyon s'est rassuré sur la pelouse de Nîmes, victoire 4-0 des Lyonnais face à des Nîmois réduits à 9.
Et une question maintenant qui, je dois dire, peut surprendre. La Ligue des Champions serait-elle menacée ?
Peut-être pas dans l'immédiat, mais la proposition de Florentino Pérez, le président du Real Madrid, va faire du bruit. Il remet au goût du jour l'idée d'un championnat européen fermé, composé de 32 clubs répartis en 4 poules. Ce projet soutenu par la FIFA concurrencerait directement la Ligue des Champions, organisée par l'UEFA. Une lutte d'influence sur ce dossier semble donc engagée entre les deux instances internationales du football, la FIFA d'un côté, l'UEFA de l'autre.
On passe au biathlon avec la Coupe du Monde et revoilà les trois mousquetaires au départ du relais masculin. Et
oui, Fabienne, les trois mousquetaires qui étaient 4, si on se fie au roman d'Alexandre Dumas.
C'est tout mon interrogation.
Mais je l'ai senti, c'est pour ça que je le précise.
Et oui, D'Artagnan, pardon.
Et n'est-ce pas ? Et cela tombe bien puisque le relais français est composé des 4 biathlètes qui ont raflé les 4 premières places de l'individuel mercredi. Émilien Jacquelin, Simon Détieu, Quentin Fillon-Maillet et Martin Fourcade partent favoris du relais masculin d'Östersund en Suède. Un carré d'as imbattable. Attention, c'est une autre course, prévient le quintuple champion olympique Martin Fourcade.
On fait partie des équipes favorites, c'est sûr, mais on garde vraiment en tête que c'est aussi toutes les étoiles et toutes les performances qui sont alignées le même soir et que ça démontre certes un niveau d'ensemble de l'équipe, mais ça démontre aussi une belle réussite collective au même moment. Et je pense que aucun de nous s'enflamme là-dessus en pensant qu'il va y avoir une domination sur la saison et encore plus sur les relais. On connaît trop bien notre sport pour savoir que ça tourne très vite.
Martin Fourcade qui sera au départ du relais masculin 7 km 500 cet après-midi à Östersund en Suède, départ de la course à 17h30.
Le reste de l'actualité sportive en bref, Coupe d'Europe de rugby.
Allez, troisième journée et 3 clubs français sur les pelouses aujourd'hui. Lyon-Trévise à 14h, La Rochelle-Glasgow à 16h15 et le Racing 92 contre les Gallois d'Ospreys à 18h30.
Merci beaucoup Christophe Lamarre et grâce à vous on révise nos classiques en régie pour savoir le nom des trois mousquetaires. Mais ce sera pour demain.
Ou ce soir sinon,
voilà.
À 18h.
Il nous reste à voir le temps que nous réserve ce samedi.
Augmentez votre confort thermique et acoustique pour longtemps avec les fenêtres ArcadeB. Plus d'infos sur arcadeb.com. ArcadeB vous présente la météo.
Et Valérie Darmon, vous nous dites qu'il vaut mieux profiter de cette journée calme avant un fort coup de vent attendu demain soir sur la Manche.
Absolument. Et de la Nouvelle-Aquitaine au Grand Est, les précipitations se font de plus en plus rares et on connaît même quelques éclaircies qui tentent de percer sur les reliefs du Massif central, du Jura et des Vosges. Plus au nord, de la Bretagne et des Pays de la Loire aux frontières belges, en passant par la région parisienne, le ciel alterne entre passages nuageux et quelques timides éclaircies là aussi. Le ciel qui reste bien dégagé des Pyrénées au Languedoc-Roussillon vers la région PACA. Et puis en soirée et la nuit prochaine, on a une nouvelle perturbation active qui va rentrer par la Bretagne avec un fort coup de vent annoncé pour dimanche soir sur la Bretagne et les bords de la Manche. D'ici là, les maximales sont relativement douces, 10 à 13 degrés en général, 15 à 17 sur le littoral méditerranéen et jusqu'à 17 sur l'île de Beauté.
Merci beaucoup Valérie Darmon. À suivre, c'est donc mercredi qu'Édouard Philippe dévoilera en intégralité, a-t-il dit, son projet de réforme des retraites, alors que les syndicats ont instauré un rapport de force depuis la mobilisation de jeudi. De quoi témoigne cette mobilisation? Faut-il faire un parallèle avec 95? On va poser la question à l'observateur éclairé des mouvements sociaux qu'est l'historien Michel Pigenet. Il est mon invité.
Europe 1.
Il est 12h50 et le journal de la mi-journée se poursuit à présent avec votre témoin de la semaine, Fabienne Lemoelle.
Et Édouard Philippe a donc donné rendez-vous mercredi à midi précise pour dévoiler en intégralité sa réforme des retraites. Annonce lors d'une prise de parole surprise hier sur le perron de Matignon. Réponse à la mobilisation de la rue jeudi qui a instauré un rapport de force entre syndicats et gouvernement. Alors que faut-il attendre de ces annonces? Comment sortir de ce bras de fer alors que les grévistes des régimes spéciaux RATP et SNCF maintiennent la pression? Avec moi en studio pour nous donner les clés de ce mouvement social, l'historien Michel Pigenet, professeur émérite d'histoire contemporaine à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Bonjour.
Bonjour.
Vous qui êtes un observateur éclairé des mouvements sociaux et des grèves, comment qualifieriez-vous celle de jeudi? Déjà, est-ce que vous vous attendiez à une telle mobilisation? Le Premier ministre lui-même a parlé d'une grève importante.
Oui, il est observateur, mais effectivement, on pouvait s'attendre à une forte mobilisation. Ce qui est intéressant dans ce qui s'est passé jeudi, c'est l'ampleur et l'étendue, au sens où, à la fois, il y a une certaine diversification des manifestants et surtout une étendue dans le pays. Il y a une sorte de capillaire de la protestation qui est très intéressant et qui signifie que quelque chose vibre dans le pays.
Ça veut dire qu'on n'a pas manifesté effectivement qu'à Paris. On s'était parlé en amont de cette mobilisation de jeudi. Vous m'aviez dit 2019, ça n'a rien à voir avec 1995. Tout le monde l'a en mémoire, Édouard Philippe sûrement. Est-ce que vous maintenez le même constat?
Alors, les différences que je notais avant demeurent. Différences politiques, différences sociales et syndicales. Différences politiques, en 95, on a une réforme qui essaie de prendre l'opinion par surprise et trop bien par surprise, puisque Jacques Chirac avait été élu sur le thème de la fracture sociale. On ne le voyait pas venir. 2019,
alors que là, Emmanuel Macron, effectivement,
voilà, il l'avait annoncé,
une réforme des retraites à faire.
Mais le problème, c'est qu'il la met en œuvre à mi-mandat. Alors que déjà, l'effet état de grâce est passé et qu'il y a eu la crise sociale des Gilets jaunes qui l'a fortement ébranlé. Donc, on n'est pas dans le même contexte politique. Sur le plan social, non plus. La réforme de 95 touchait à la sécurité sociale, mais elle touchait surtout au régime de retraite des services publics et de la fonction publique. En 2019, c'est tout le système des retraites qui est concerné.
Même si on voit une nouvelle fois des salariés des deux principaux régimes spéciaux, on va dire, SNCF et RATP en première ligne, qui maintiennent la pression.
Alors ça, c'est en effet quelque chose qui est un peu comparable à 1995. Alors, il faut attendre, parce que 95, ça n'est pas démarré si vite que ça. Les enseignants s'y sont ralliés en cours de route. Là, ils étaient présents d'emblée. Et pour le privé, il faut voir. Alors, c'est vrai qu'il y a, sur certaines questions comme les retraites, qui intéressent directement l'État, l'exécutif, dans le privé, l'interlocuteur des syndicats, c'est l'employeur, c'est le patron. Donc, s'adresser directement à l'État en faisant grève dans le privé, c'est plus compliqué que dans le public, où là, c'est l'État patron qu'on a en face de soi.
Pourquoi cette question des retraites reste toujours aussi inflammable? Ça semble mobiliser plus que tout autre sujet. Dans Le Monde hier, le sociologue Jean-Michel Denis rappelait cette grève de 53, que j'avoue je ne connaissais pas, la mère des batailles, qui avait mis 4 millions de grévistes, alors pas dans la rue, mais en tout cas 4 millions de grévistes, un 15 août en plein été.
Oui, c'était une première tentative de réforme des régimes spéciaux et il ne devait plus y en avoir avant 1995. Dans l'opinion, sa mémoire s'était dissipée. Dans les syndicats aussi, je pense que dans le pouvoir, on en avait conservé la mémoire.
Les partenaires sociaux doivent rencontrer lundi Agnès Buzyn et Jean-Paul Delevoye qui est en charge ce dossier, surtout la concertation. Est-ce que ça a du sens de voir les partenaires sociaux deux jours avant qu'Édouard Philippe fasse ses annonces?
Je n'en sais rien. C'est sans doute, il y a du rapport de force, il y a de l'information peut-être qui peut circuler.
C'est une manière de voir ce qu'il faut ajuster
Peut-être. Je ne suis pas compétent là-dessus. Mais par contre, je voudrais revenir sur les retraites. En quoi, pourquoi c'est inflammable? Parce que là, d'abord, ça concerne toute la population, et toute une population qui n'est plus celle de 1950 ou de 1910, quand a été voté le premier régime obligatoire de retraite. Maintenant, on a en effet un temps à vivre après la période du travail. Et d'une certaine façon, tout le monde, alors sans doute pas les très jeunes pour lesquels c'est très loin, mais tout le monde finit par adapter sa vie aussi en tenant compte de ce temps de retraite. C'est un fait de civilisation. Et quand on y touche, là, on touche à quelque chose de profond.
Alors, est-ce que la grève, Michel Pigenet, c'est la seule manière définitivement en France de régler les choses? Je dis ça parce que même sur la méthode, Édouard Philippe a dit qu'il devait agir sans brutalité, comme s'il avait cette charge mentale de 95 et peut-être un peu de son mentor, Alain Juppé, droit dans ses bottes, disait-on à l'époque.
Oui, mais alors, les propositions, alors là vous évoquez le Premier ministre, mais après il y a eu des ministres, il y a aussi Emmanuel Macron qui, même s'il ne s'est pas exprimé directement il y a peu de temps là-dessus, a eu des propositions, a des propos qui ont varié dans le temps. La question c'est, s'agit-il seulement d'écouter, de concerter ou de négocier? Et c'est vrai que si on attend la grève pour négocier, eh bien, on se met dans un rapport de force et à partir de ce moment-là, on est obligé de négocier avec ceux qui font grève, ce qui n'était peut-être pas le cas auparavant. Il semble que du point de vue de la tactique, sinon de la stratégie, il y a eu un peu de flottement.
Mais vous qui avez le recul de l'historien, justement, on a toujours l'impression de ce rapport de force qui doit forcément s'instaurer pour que le dialogue arrive à un moment donné.
Il semble bien qu'en France, pour être entendu, il faille se manifester. Alors, manifester au sens le plus direct du terme dans les rues, ou aussi faire grève. Oui, c'est un constat.
Merci beaucoup Michel Pigenet de nous avoir éclairé ce matin alors que l'on est entre guillemets suspendu désormais aux annonces du gouvernement mercredi qui sera donc des annonces faites à 12h précises devant le Conseil économique, social et environnemental. Et puis vous le savez, à 13h on prolonge cette tranche d'information avec Tout Terrain, l'émission des reporters d'Europe 1, émission exceptionnelle avec les reporters qui vont vous faire découvrir les lieux emblématiques du réchauffement climatique sur les 5 continents en pleine COP25. Europe 1.